Bonjour, c'est Romaric Briand. Tout de suite, je vous propose d'écouter l'audio d'un de mes lives enregistré sur Twitch le premier mardi du mois. Vous pouvez me soutenir en souscrivant à mon Patreon ou bien soutenir mes invités en achetant leurs livres, leurs jeux, leurs œuvres. Bonne écoute. J'ai dû séparer ce live en plusieurs parties, ce qui était beaucoup trop dense. Donc du coup, là, vous êtes en train d'écouter la deuxième partie du live, celle consacrée à vos retours sur l'article de Pierre Lagrange qui avait fait l'objet du live précédent. Alors, voilà, donc j'en ai fini de mes bonjour, Fen, Doel, Délice. Alors, c'est horrible parce que c'est vraiment affreux parce que avec ma dyslexie, ça va être extrêmement difficile de suivre vos pseudos. Je vais toujours écorcher les pseudos. Ça va être une catastrophe. Donc je suis désolé. N'hésitez pas à me dire vos prénoms dans le chat. Parce que vraiment, j'ai pas l'habitude d'appeler les gens par leur pseudo en général. Bonsoir Cobal, ça me fait très plaisir de te voir là. Toi, je connais bien ton pseudo parce que je te connais bien personnellement. Voilà. Fendoel Délice. Fendoel, c'est nickel. Ok, Fendoel. Très bien. Très bien, Fendoel. Je vais essayer de retenir vos pseudos. Merci beaucoup d'être là. Merci à vous. Ça me fait vraiment plaisir de voir que vous suivez cette chaîne et mes pérégrinations rôlistes et autres. Voilà. J'ai fini pour les actus. Je voulais faire 1 heure. J'ai fait 1h30, comme d'habitude. Je suis trop bavard. Si vous avez des dernières réactions, n'hésitez pas. Quelques réactions encore, n'hésitez pas. De vendre des licences. On me dit que l'idée de vendre certaines de mes licences, comme le village, des licences simples pour financer des jeux de rôle, comme Trip to Sky, est une super idée. Oui, je te remercie, Rick Pogan. Je pense que ça peut être une solution à nombreux problèmes financiers. Vraiment, non mais je me suis un peu cassé le cul quand même pour trouver toutes ces solutions. Parce que je vous avoue que face au mur là, parce que vous avez vu le tableau là, donc le tableau de dans ce sont mes chiffres d'affaires pour ceux qui débarquent. Donc vous voyez les chiffres d'affaires de l'année 2021 jusqu'en 2023. Donc vous voyez une chute phénoménale. Je pense que beaucoup d'éditeurs ont subi une chute, mais moi j'ai particulièrement morflé, d'après mes informations. Voilà. Et je le dis avec le sourire, parce que c'est une aventure l'indépendance. Faut aimer se prendre des gamelles quand on fait ce boulot, faut aimer se prendre des claques, ça sert à rien de le faire sinon. Voilà, moi j'aime bien me vautrer, j'aime bien me faire critiquer, j'aime bien m'en prendre plein la tronche. Ça me plaît, j'apprends. Voilà, je ne perds jamais, j'apprends. Ça c'est un truc qui me va bien ça. Donc voilà. Allez, on reprend. Alors. Avec vous, je voudrais rapidement reprendre le stream de la dernière fois. J'ai reçu beaucoup de commentaires sur le stream de la dernière fois. Putain, c'est horrible, faut que je me mouche. C'est horrible. Pardon. C'est une catastrophe. Quelle transition incroyable. J'ai eu beaucoup de retours et beaucoup de questions sur le stream de la dernière fois. Beaucoup m'ont dit Pierre Lagrange a été clair, mais en fait ce que je pense que vous n'avez pas compris, c'est ce que je trouvais révolutionnaire dans ces idées. Je crois que la plupart des questions ont porté là-dessus. Donc du coup, en fait, ce que je vous propose, c'est de reprendre rapidement, hein. Je vais pas y passer non plus toute la soirée, mais je voudrais reprendre avec vous quelques éléments de cet article quand même. Je suis crevé, je commence cet article. Pierre va me tuer, c'est sûr. Parce que je vais pas être précis. Je vais faire de la mauvaise pédagogie, de la mauvaise vulgarisation, mais je vais essayer quand même. En fait, ce que je trouve fascinant chez Pierre Lagrange, c'est cette idée-là. L'idée du grand partage entre, d'un côté, une pensée rationnelle et, de l'autre, la pensée magique. Cette idée qu'en fait, dans notre vision des choses, dans notre vision en fait des sciences, de la réalité, on a toujours cette en tête, en toile de fond,
cette espèce de grand partage entre, d'un côté, les gens qui voient la réalité telle qu'elle est, et de l'autre, les zinzins, qui seraient dans une forme de pensée magique. Et ce que propose Pierre, c'est de dépasser cette vision-là. Et fondamentalement, ce que l'article interrogeait, donc je rappelle que lors du dernier stream, on a fait le commentaire d'un article de Pierre Lagrange, paru aux Presses universitaires de Grenoble, qui est là en ce moment sous vos yeux, et donc dont le titre est Les non-humains qui échappent, qui résistent, pardon, à la sociologie symétrique. Et donc on avait, je ne vais pas refaire le stream de la dernière fois évidemment, mais on a vu avec Pierre en fait ce que c'était que les non-humains, pourquoi ils résistaient à la sociologie symétrique, et là-dessus je ne vais pas revenir. Ce sur quoi je voudrais revenir avec vous, c'est quelques-unes de vos questions d'abord, et d'autre part ce que je trouve vraiment génial là-dedans. Ce que je trouve génial là-dedans, c'est que ça nous permet de dépasser des débats, comme celui par exemple des pensées du complot. Ça nous permet de dépasser des débats, comme celui par exemple que... des zététiciens contre les zinzins, pour faire simple. Ça nous permet en fait de dépasser des débats qui n'ont pas lieu d'être pour moi en fait. Qui n'ont pas lieu d'être. Les humains tiennent des discours. Ils utilisent le langage pour construire des mondes. Les leurs. Leur monde dans lequel ils vivent. C'est ma vision des choses là. Je prends pas la vision de Pierre Lagrange. Je vous présente ma vision des choses et ce que Pierre Lagrange apporte à mes propres idées. Les humains utilisent le langage pour construire le monde qui les entoure. C'est-à-dire qu'en fait, alors attention, ça ne veut pas dire que il n'existe pas une réalité au-delà des mots qu'on emploie. Mais ça veut dire que concrètement, quand j'appelle un objet une bière, c'est parce que j'ai décidé, enfin, on a décidé collectivement que cet objet-là s'appellerait une bière. Si on prend par exemple le livre de Daniel Schneiderman, donc 5 têtes coupées, c'est un livre, mais c'est aussi un amas de particules, par exemple. On pourrait très bien, si j'étais par exemple scientifique ou biologiste moléculaire ou je ne sais quoi, je pourrais très bien dire que c'est un amas de particules, de papier, je pourrais dire que c'est un tas de bois mort, ça par exemple, si j'étais un bûcheron. Enfin voilà, ce que j'essaye de dire, c'est que il y a une réalité qui résiste tout autour de nous, clairement, une réalité. Un monde réel, et chacun d'entre nous, on emploie des termes pour des termes différents pour en parler. Vous êtes toujours avec moi? J'ai l'impression que je vous ai perdu. Vous me dites hein, si je... Vous voyez, je vous ai perdu. Trop de diversité dans ce... Vous me dites hein, s'il y a un problème, parce que j'ai l'impression que ça ne réagit plus du tout. Vous êtes parti. Bon, très bien. Ben voilà. La preuve est faite que ces histoires de sociologie, jusqu'ici c'est clair pour moi. Tu es en train d'oser réfuter le solipsisme. Oui, j'ose réfuter le solipsisme. Ok, vous êtes toujours là. J'avais peur parce que je voyais plus de réaction du tout. Je me dis, ça y est. Mais vous voyez, il n'y a plus de réaction là. Oh, c'est intéressant. Bon, je vous glisse ça là. Donc, alors, je reprends. Donc, en fait, on a une réalité tout autour de nous, et puis chacun d'entre nous, on emploie des mots pour décrire cette réalité. Et donc, on construit des concepts, on construit des normes, c'est ce que dit Marc, on construit des lois, etc., etc., collectivement. Et attention, pas en règle générale, c'est des communautés, en fait, des communautés de gens. Alors, les occidentaux, les scientifiques, des communautés, en fait. Communauté de gens, des groupes de gens, des gens associés, qui fabriquons en fait des faits, qui fabriquons des mots, qui fabriquons des propositions, etc., etc. Et attention, encore une fois, je ne suis pas en train de dire que le monde n'est qu'un ensemble de propositions qui flottent dans le vide. Évidemment, les propositions visent à faire référence à une réalité qu'on essaye de chercher, mais que nul ne sait exactement. Personne, aucun d'entre nous, et je l'espère en tout cas, n'a la prétention de décrire le réel à travers les mots qu'il emploie dans la communauté qui est la sienne. J'espère que ça, c'est clair. Donc, voilà. Voilà. L'idée, mon idée à moi, je dis pas que c'est l'idée de Pierre, mon idée à moi principale. Ça me semble être une évidence en fait. Voilà, il y a un réel qui est quelque part, et nous on emploie des mots pour tenter de le décrire. Ça me semble quand même pas être spécialement sorcier comme vision du monde. Voilà. Ça m'a l'air plutôt de pencher du côté de la pensée rationnelle que de la pensée magique, ça. dans un premier temps. Donc voilà. Donc, une fois qu'on a dit ça, moi je suis Wittgensteinien, donc mon idée c'est qu'on a un langage qui vise à décrire le monde, mais un langage qui est un petit peu imparfait. Une fois qu'on a dit ça, eh bien, il nous faut, dans ce contexte-là, étudier quel est le rôle de la sociologie. Et là, on entre dans le domaine de Pierre Lagrange. Donc, je ne vais pas revenir sur ce qu'a raconté Pierre Lagrange dans notre dernier stream, mais quand on a cette vision du monde, eh bien, on doit étudier les communautés avec leur langage, entre guillemets, et donc avec les objets qu'il postule comme étant existants dans le monde. Et donc, du coup, si j'étudie des platistes, eh bien, je dois étudier les platistes avec leurs mots à eux. C'est-à-dire qu'en tant qu'anthropologue, je dois me plonger dans l'univers des platistes sans préjuger à l'avance que la Terre n'est pas plate. Je dois essayer de penser comme un platiste pour me plonger en fait dans cet univers-là dans lequel on va essayer, allez, soyons fous. On va faire une expérience, on va se mettre dans la peau d'un platiste. Exactement comme un rôliste qui se dit ce soir, je joue quelqu'un d'autre, je vais essayer d'envisager la réalité de quelqu'un d'autre. Je vais essayer de. Bon. Évidemment, c'est jamais vraiment possible. Et c'est ça, justement, un des éléments que nous apprend la sociologie. C'est qu'en étudiant l'autre, tout en essayant d'être l'autre, en essayant de se plonger dans son univers mental, visuel, etc., eh bien, on apprend des choses sur notre propre manière, à nous, anthropologues, de voir le monde. Et on découvre, à travers les études des autres, quel est finalement notre mode de présence, de rap quel est notre propre rapport au monde. En voyant, en gros, je découvre la nature du petit déjeuner français en allant chez les Anglais voir ce qu'ils déjeunent le matin. De la même manière, un anthropologue, il découvre sa manière d'être au monde en allant tenter d'entrer dans la manière d'être au monde d'autres personnes. Et donc, du coup, l'anthropologue ne doit pas préjuger de la réalité, de ce qui existe. S'il part du principe que la Terre n'est pas plate, que, pardon, oui, c'est ça. S'il part, pour étudier les platistes, s'il part du principe que la Terre est ronde, il ne va pas réussir à étudier son terrain. Il ne va pas y arriver. Donc, il doit postuler le fait que peut-être la Terre est plate. Alors évidemment, ça choque énormément, mais c'est ce que doit faire l'anthropologue, c'est ce que doit faire le sociologue. Parce que s'il y va avec ses gros sabots, en découpant la réalité, en préjugeant que sa façon de décrire la réalité est la bonne, eh bien il va échouer tout simplement à comprendre la réalité des personnes qu'il étudie, enfin la réalité, le monde, pardon, des personnes qu'il étudie. On va faire une distinction comme ça entre le monde et la réalité. Le monde, c'est ce que je crois être la réalité, ce que je crois être le réel. Et puis le réel, c'est quelque chose qui serait en dessous. Et on pourrait même me contester, et les sociologues le contesteraient, je pense que Pierre le contesterait aussi, je suis sûr qu'il me reprendrait. On pourrait même contester le présupposé, l'axiome de départ que je vous ai posé, à savoir qu'il existait un réel derrière les façons d'en parler. Et qu'en fait, si ça se trouve, le réel, OSEF, ça n'existe pas. Il y a des constructivistes qui pensent ça. Bon, c'est pas mon cas, mais il y a des constructivistes qui le pensent. Donc, ça c'est très intéressant en anthropologie, les idées de Pierre, parce qu'elles permettent de dépasser en fait nos propres préjugés, de voir en fait en se mettant en fait dans la peau des autres, dans les mondes, en voulant plonger dans le monde des autres, je ne peux pas le dire autrement, eh bien on finit par se découvrir soi-même. Et là, vous voyez tout de suite les liens avec le jeu de rôle, avec mon travail. Je ne vais pas vous faire un dessin. Je veux dire, tous mes jeux parlent de ça, de découvrir le monde des autres. Sens, c'est l'histoire d'un individu qui vous invite à découvrir son monde. Enfin, je ne vais pas refaire le déroulé, mais là, on voit qu'on est connecté là. Donc voilà. Alors, tac, 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 je reprends un petit peu. Alors, dans l'article, donc au départ, il explique les erreurs dans lesquelles est tombée la sociologie. Au départ, on préjugeait qu'il y avait d'un côté le social, de l'autre la nature. Puis, il nous explique évidemment cette distinction entre nature et social a été construite. Je reviens pas hein, là-dessus. Je pense que Pierre a été très clair lors du stream. Et puis ensuite, donc, il parle du caractère encore problématique. Puis ensuite, la sociologie s'intéresse aux non-humains, donc des gens qui, justement, qui font pas partie du corps social habituel, et donc plutôt des gens qui sont pas des gens, en fait. Hein. C'est des êtres, en fait, auxquels l'humanité s'associe pour faire société. Et donc, du coup, y a des non-humains. Bon, il y a les arbres qui comptent parmi les non-humains. On a cité les coquilles Saint-Jacques de Saint-Brieuc, etc. Et puis, on en arrive aux non-humains bizarres, les non-humains étranges, que sont les ovnis, les spectres, les fantômes, et compagnie, et compagnie. Alors évidemment, quand on étudie ce type d'individu, la difficulté qu'on a en tant qu'anthropologue, c'est qu'on est toujours appelé à faire ce que j'ai fait précédemment. C'est-à-dire, oui, attendez, oh là, ouais, je parle des fantômes, je parle des ovnis, mais rassurez-vous, je crois qu'il y a un réel derrière et que, bon, je le dis pas comme ça, mais bon, ça n'existe pas, tous ces trucs. Non, en fait, faudrait pas faire ça. Et c'est ce que nous présente un peu Pierre Lagrange ici, c'est qu'il nous dit, attention, quand on parle des choses bizarres, on est toujours tenté d'abord de mettre pâle blanche. Vous inquiétez pas les occidentaux, je suis normal, moi aussi je crois comme vous que la terre elle est ronde, il n'y a pas de problème avec ça. Moi aussi je crois que pour soigner le cancer, il ne faut pas utiliser l'homéopathie et qu'il vaut mieux utiliser des rayons et un bon oncologue bien de chez nous. Bien sûr, il vaut mieux faire appel à Wilson que faire appel, référence à Wilson, le personnage de Dr. House. Bien sûr, il vaut mieux faire référence à un oncologue que d'aller voir un naturopathe. Mais bien sûr. Ouais, mais sauf qu'en tant qu'anthropologue, tu vois, eh bien il faudrait pas dire ça. C'est pas qu'il faudrait pas dire ça. C'est-à-dire que le fait même de dire ça suppose en fait que déjà en tant qu'anthropologue, je ne crois pas, je ne prends pas vraiment au sérieux les individus que je vais étudier. Parce que eux, ils prennent au sérieux la naturopathie et l'homéopathie. Donc il faut prendre au sérieux. Et prendre au sérieux, ça veut dire accepter, aller jusqu'au bout. Et accepter même, allez, on va dire, allez, c'est même réel. Si ça se trouve, c'est réel. Si ça se trouve, il y a vraiment des ovnis. Si ça se trouve, etc. Et en fait, le problème de l'anthropologue qui s'intéresse à des choses bizarres, c'est que quelque part, il doit toujours d'abord montrer patte blanche aux rationalistes. Leur dire, non, vous inquiétez pas, je suis normal. On est des gens normaux, hein, on est juste des sociologues, des anthropologues égarés parmi les zinzins. Mais évidemment qu'il faudrait pas faire ça. Il faut surtout pas faire ça. Il faut pas préjuger. Ça se trouve, c'est les... Putain, ça se trouve, c'est Wilson et les oncologues qui sont complètement zinzins. Ça se trouve, c'est nous les zinzins. Ça se trouve, c'est nous les occidentaux qui avons un rapport au monde qui est problématique. C'est nous les occidentaux qui ne savons pas faire autre chose quand on arrive sur un pays que de le coloniser, le maltraiter, le défoncer. Ça se trouve, c'est nous qui avons un problème de rapport au monde. Et pas les zinzins. Voilà. Et donc, il faudrait être capable de faire cet exercice mental qui consiste à se remettre en question fondamentalement, etc. Évidemment, c'est pas possible. Je vous le dis tout de suite. C'est-à-dire que c'est un idéal vers lequel Pierre nous invite à tendre. Mais évidemment, c'est impossible de sortir de soi-même. On ne peut pas renier toute notre culture occidentale. Même quand on est anthropologue, c'est extrêmement difficile. Et donc justement, c'est ça que nous apprend l'anthropologie. C'est qu'on ne peut pas totalement se renier, et donc en étudiant son terrain, on s'étudie soi-même, et qu'il y a un échange comme ça, une réciprocité. Mais déjà, en allant vers les autres en anthropologue, c'est-à-dire sans préjuger de ce qui est réel ou pas, on obtient avec eux des discussions beaucoup plus apaisées. On peut comme ça construire ensemble des ponts les uns vers les autres. Et là, j'en viens aux propos politiques que je vois derrière Pierre Lagrange. Encore une fois, ce n'est pas Pierre Lagrange qui dit tout ça. C'est ma manière de voir Pierre Lagrange. Le discours politique de Pierre Lagrange, il est clair. C'est « tendons-nous la main ». Tendons-nous la main. Ne laissons pas les QAnon partir dans leur coin tout seuls. Ne laissons pas les complotistes partir dans tous les sens. Tendons-nous la main. C'est-à-dire, allons vers les autres sans préjuger s'ils sont fous ou pas. Essayons d'entrer dans leur rationalité. Et on va peut-être découvrir que derrière toutes ces théories, du complot, etc., il y a peut-être aussi fondamentalement des erreurs occidentales, des erreurs qui sont faites par notre vision du monde. C'est-à-dire que, quelque part, les pensées du complot nous renvoient aussi à la figure des concepts qu'on a développés. Par exemple, dans les publicités, quand on dit c'est prouvé, c'est scientifique, c'est prouvé. Bah, comment voulez-vous, alors que c'est pas vrai, la science ne procède pas comme ça, la science ne prouve rien, la science c'est un discours, c'est une controverse autour de certains sujets. Aucun scientifique n'a une vision arrêtée du monde, ou alors ce n'est pas un scientifique. Les scientifiques savent très bien que les modèles théoriques qu'ils fondent dureront le temps qu'ils dureront, le temps de trouver des contre-expériences ou des modèles théoriques plus aboutis, bien meilleurs pour expliquer le réel tel qu'ils l'imaginent. Voilà. Donc, enfin voilà. Donc, quand on donne une vision de la France, n'importe quoi, mais tu vois, ça y est, je dérive. Quand on donne une vision de la science arrêtée en disant ce que dit la science, c'est la vérité, et que parallèlement à ça, on a des gens qui disent se soigner avec des modèles parallèles ou machin, bah évidemment, ces gens comprennent pas, ils opposent les choses. Par exemple, quand on a des gens qui nous disent on va faire la guerre en Irak parce qu'il y a des armes de destruction massive là-bas, et qu'en fait il n'y en a pas, bah, fondamentalement, on pousse un petit peu les Occidentaux à douter des gens qui se disent savoir des choses, hein, fondamentalement. Et donc, du coup, quelque part, c'est aussi notre rapport à la vérité que les pensées du complot interrogent. Et donc, ça, c'est très intéressant. Ça permet de comprendre que ces gens ne sont pas fous. Les gens qui pensent QAnon, les gens qui pensent platistes, les platistes, etc. Non, les naturopathes, je ne sais pas tous ces les écologistes, les écoterroristes. Ah oui, on pourrait les citer. Voilà, parce que j'arrête pas de citer des gens qui c'est un peu facile, qui sont voilà. Les néolibéraux, par exemple. Non, les néolibéraux ne sont pas fous. Ils ont une rationalité bien à eux. Une rationalité très étrange, c'est vrai, hein. Mais ils ont une rationalité bien à eux, les néolibéraux. Les gens de droite, par exemple. On va pas tout de suite les traiter de cinglés, hein. Ils ont une pensée bien à eux. Elle est un peu, voilà. C'est la leur. Donc on doit se tendre les mains les uns vers les autres, et donc ne pas préjuger de la folie des autres avant de leur parler. Et je trouve quand même que cette démarche anthropologique, qui est celle de Pierre, en fait, elle est universalisable. Ça devrait être notre démarche à tous, en réalité. Et c'est un peu ce que propose Arrêt sur image, moi, je trouve, en fait. J'ai essayé de défendre dans l'entretien que j'ai eu avec Daniel Schneiderman que Arrêt sur image, c'était de l'anthropologie dans le monde du journalisme. Bon, j'ai pas reçu beaucoup de commentaires sur ce point, mais voilà, je pense, en fait, que ce mode de construction critique au sujet de la réalité, en fait, c'est le vrai discours scientifique. Alors, le vrai discours scientifique, ça y est, j'ai dit de la merde. C'est comme ça, en fait, que toute controverse, que toute discussion, que tout savoir sur la réalité devrait se constituer, à travers un échange constructif entre tous les acteurs qui composent cette réalité. Il n'y a pas d'un côté les scientifiques qui savent, hein, non, non, je suis désolé, il n'y a pas les scientifiques qui savent, et de l'autre les zinzins qui sont cinglés. Non, il n'y a que des gens qui vivent dans un même monde, qui ont des concepts différents pour le décrire, et qui doivent faire société. Qui doivent communiquer entre eux. Il doit y avoir des concepts ponts pour se parler quand même. Et tant qu'on n'aura pas compris que si on continue à partager le monde en deux comme ça, on générera des peurs, on générera des clans, on générera du fascisme et compagnie, eh bien tant qu'on n'aura pas compris ça, on ne pourra pas avancer. Et ce qui nous arrive là en ce moment, Trump au pouvoir aux États-Unis, ce qui nous arrive en ce moment avec les fake news sur Twitter, l'opposition entre l'Occident des États-Unis, de l'Ukraine, de l'Europe, et l'opposition de Vladimir Poutine, etc. Les grandes oppositions du monde en réalité, en fait, ce qui nous arrive en ce moment, sont le fruit de nos mauvaises visions du monde, de nos visions simplistes du monde. Quand la science c'est la vérité, quand on dit l'Amérique c'est la liberté, quand on dit des conneries comme ça, et ben quand on n'a pas de discours critique et qu'on dit qu'on assène des vérités de cette façon-là, et bien justement on génère du fascisme. Et donc là, ce discours de Pierre Lagrange nous propose justement d'aller les uns vers les autres et de porter des discours critiques, et y compris sur celui que je suis en train de porter là, mais allez-y, critiquez-moi, mettez-moi des claques, dites-moi que j'avais pas le droit de dire que les vrais scientifiques et les faux scientifiques, parce que ça n'a pas de sens. Dites-moi, quand je passe sur le stream de David Dufresne, que effectivement, quand je dis qu'il y a des vrais rôlistes et des faux rôlistes, je suis qu'un connard. Dites-le-moi, ça fait du bien. On a besoin de ces controverses-là. Et donc, je pense vraiment que cette discussion que nous apporte ici Pierre Lagrange et cette méthodologie rigoureuse de l'anthropologie est un bien. Ça fait un bien fou, quoi. C'est un mode d'analyse et de discussion sur le réel qui, moi, me plaît et que j'ai envie d'encourager. Alors, je vous ai vu réagir dans le chat, je vais rapidement reprendre. On aurait dû brûler Ludwig. J'imagine que tu parles de Ludwig Wittgenstein. Non, surtout pas. Surtout pas, surtout pas, surtout pas. Génie absolu. Alors, pour le coup, on arrive à mettre de côté l'Occident dans un autre pays, mais généralement, nos grands financiers ont plus de mal. Pour le coup, on arrive à mettre de côté l'Occident dans un autre pays, mais généralement nos grands financiers ont plus de mal. Je comprends pas cette remarque. Mais je pense que c'est parce que j'ai pas le contexte. Parce qu'en fait, du coup, quand on remonte comme ça le stream, du coup, comme on sait, comme vous réagissez à des choses que je suis en train de dire, ce live est passé de l'autre côté de la France. C'est excellent. Oh, comment ça, il y en avait pas en Irak. Et la fiole de Monsieur Powell, on en parle. Ah oui, ça c'est la fameuse fiole que Powell a montrée aux Nations Unies pour prouver. Regardez, c'est prouvé, il y a... Voilà, ça c'est vraiment le péché originel des Occidentaux pour moi. C'est ce qui fait qu'on est dans la merde aujourd'hui. Hein. Ça explique en grande partie la défaite de l'Occident actuel. Et j'emploie le mot défaite de l'Occident parce que je viens de lire le livre d'Emmanuel Todd. Alors je sais, me jetez pas des légumes tout de suite. Je sais ce que vous pensez d'Emmanuel Todd. Voilà, je continue à lire, je suis désolé. Voilà, j'ai un vieil attachement pour cette personne. Je continue à lire Emmanuel Todd. J'ai trouvé son livre très complaisant à l'égard de la Russie, évidemment. Il est russophile. Bon, je pense que, voilà, en tant qu'historien, il n'est pas complètement... Je pense qu'il n'est pas complètement neutre, on peut le dire comme ça, mais je trouve que son livre est intéressant dans la mesure où il amène justement un retour réflexif sur nos propres soucis à nous les Occidentaux, là aussi il nous amène à prendre du recul, et surtout il nous permet de comprendre que l'adversaire de l'Occident, en l'occurrence donc c'était cette alliance très hétéroclite entre l'Iran, la Chine, la Russie, enfin je ne vais pas vous reciter les différents pays, l'Inde aussi quelque part par son ambivalence, ont une race rationalité en fait. Ils ont un vrai problème avec l'Occident et on peut le comprendre. Enfin bref, le point de vue d'Emmanuel Todd et voilà. Moi je trouve que c'est lisible. Voilà. Bon c'est parfois un peu difficile hein, quand même. Hein. Il y a des trucs avec lesquels je suis pas franchement d'accord. Mais c'est pas le sujet, c'est pas le débat. Je veux pas rentrer là-dedans. Je veux pas rentrer là-dedans parce que je sais que c'est un livre très controversé et j'ai pas lu les controverses, je me suis pas renseigné, donc je veux pas rentrer dans les détails. C'est juste que voilà, moi j'aime bien, vous le savez que j'aime bien lire Emmanuel Todd, même quand il se plante monumentalement, ça je trouve, puis il est accessible, c'est marrant, enfin voilà, ça me distrait. Voilà. Et puis quand même, y a des bonnes idées. Hein. Y a vraiment des bonnes idées dans le bouquin. Notamment sur les Occidents. Je trouve qu'il y a une vision de l'Occident qui est intéressante. Alors. Donc j'en étais où ? Alors oui, donc évidemment, il y a un propos politique derrière. Ah, j'ai vu un gros truc là. On a une confiance en la science qui n'est pas bien fondée, mais qui devrait être fondée en réalité. Parce que, comme le dit Richard Dawkins, le meilleur argument pour ça, c'est que ça fonctionne. Ah oui, it works, bitches. Ça c'est très intéressant, le it works, bitches. Je déteste ce truc. Hein. Moi, je suis vraiment un ennemi de it works, bitches. Hein. Vraiment, ça, j'aime pas trop ça. En général, on me met ça dans la tronche pour me faire fermer ma gueule. Michel, j'ai une pensée pour toi. Mais en général, le it works, bitches, je trouve que ça... Non, je trouve qu'it works pas, bitches, en fait. Hein. It doesn't work at all. Hein. Parce que... Mon anglais, incroyable. Parce que, en fait, c'est ce que dit Pierre Lagrange à la fin de son article. article. Si ça marchait vraiment, en fait, notre vision des sciences et du monde, en fait, on n'aurait pas les problèmes qu'on a aujourd'hui de destruction de la biodiversité, etc., etc. Donc, on a quand même... Alors, oui, je vois bien dans quelle mesure it works, bitch. Les avions volent, c'est ce que tu dis, Internet, ça marche, les médicaments, ça soigne, on envoie Thomas Tvesquet dans l'espace, je suis d'accord. Hein. Je suis d'accord avec tout ça. Évidemment, notre vision occidentale, elle nous permet de réaliser certaines actions sur le réel, parce qu'on en a une compréhension, on a une compréhension du comment, de la, on a un discours, on a un modèle en fait du réel qui nous permet de faire toutes ces choses. Ça c'est vrai, ça c'est indéniable, et voilà, moi personnellement, demain, si j'ai le cancer, je vais voir un oncologue, hein. Je vais pas voir, un, je sais pas, un naturopathe ou un membre de l'école Steiner pour guérir mon cancer. Je vais d'abord voir un oncologue. Mais imaginons que ça marche pas, bah, parce que je vais mourir. Je vais mourir, en fait, mon cancer il est incurable par les rayons, par tout ça, j'ai tout essayé, bon voilà, j'ai essayé ma science occidentale, j'ai essayé mes trucs, bah évidemment j'irai vers des modèles alternatifs, et d'ailleurs c'est ce que font, moi ma maman est morte du cancer, je peux vous dire qu'à la fin, dans les 2 années qui ont suivi tous les traitements possibles imaginables, elle a tout tenté, hein. Toute la métaphysique y est passée, hein. Elle a été en Inde, des machins, enfin, tout essayé. Bon, ça ne l'a pas sauvé, mais au moins, ça lui aura soulagé une certaine forme de souffrance pendant quelques temps. Donc, souffrance morale, souffrance mentale, ça aura apporté certaines réponses aux questions, parce que la science nous apporte des réponses à certaines questions, le comment, etc. Mais on n'empêche que l'humain ne se résume pas, ne se réduit pas à la question du comment. L'humain, c'est aussi quelqu'un qui a besoin d'esthétique, c'est aussi quelqu'un qui a besoin de moralité, c'est aussi quelqu'un qui a besoin d'émotion, c'est aussi quelqu'un... voilà. Les humains ne se limitent pas, et de plein d'autres choses dont j'imagine l'humanité d'une richesse incroyable, et donc il y a plein de choses que je conçois même pas en tant qu'occidental, je suis complètement à côté de la plaque, donc voilà, j'ai l'humilité de le dire, donc du coup voilà, bon, alors certes j'ai une science super qui me permet de guérir des tas de choses, de comprendre, d'envoyer des fusées dans l'espace et tout, it works bitches pour tout ça, mais it doesn't work pour plein d'autres trucs, et donc il faut aussi reconnaître humblement que il y a peut-être d'autres choses à creuser, d'autres expériences à faire. Rick Pogan me dit, pour moi le vrai souci c'est comment la science est instrumentalisée par les politiques et les industriels des fins mauvaises, ça c'est parfaitement vrai. Par ailleurs j'aime pas trop quand on parle de la science, même si moi aussi ça m'arrive de le dire comme ça, il vaudrait mieux parler des discours scientifiques. Ah, c'est comme les femmes et la femme ça veut rien dire, les femmes c'est plus signifiant, et de la même manière les sciences ou les discours scientifiques, les propositions scientifiques c'est quand même plus clair, et c'est clair qu'ils sont instrumentalisés et que c'est un problème, et ça c'est lié aussi à notre mode d'existence occidentale, parce que voilà, on a ce rapport au monde qui est que le monde est à nous, voilà, si, voilà, tu te tais. Que le monde est à nous, le monde nous appartient, et donc du coup on a ce rapport aux choses que bah, s'il n'y a personne qui l'a, bah, c'est à moi, j'en suis propriétaire et donc je dois faire du pognon avec. Ça fait aussi partie des modes d'existence des occidentaux, et on le verra d'ailleurs tout à l'heure dans la dernière partie de cette émission à travers le choix qui n'est pas un hasard de l'étude de 5 têtes coupées de Daniel Schneiderman. Ce qui est important, c'est que tu fasses ce choix en connaissance de cause, non. Alors j'imagine le choix d'aller voir tel ou tel spécialiste pour soigner telle ou telle maladie. Oui, effectivement, l'information est importante. L'information est importante. Clairement. Je pense qu'il ne faut pas sous-estimer tous les aspects de l'existence humaine. Les humains ne se résument pas à de la chair, à de la matière. Comme dirait Yoda, nous sommes plus que de la matière brute. On a besoin aussi de réponses à des questions existentielles. On a besoin de religion, enfin en tout cas de spiritualité. On a besoin, voilà. En tout cas, moi j'ai ces besoins-là. Après, je sais pas pour vous, mais moi j'ai ces besoins-là. Je ne me résume pas à de la matière et je ne me résumerai jamais à la matière. Comme vous le savez, hein, à travers l'écriture de Trip to Sky, vous savez maintenant que j'ai la foi, par exemple, ce qui est pas facile à entendre pour les matérialistes et les rationalistes, mais c'est vrai, j'ai la foi, même si par ailleurs j'étudie les sciences, vous le savez, j'adore les sciences, j'adore les discours scientifiques, la preuve, hein, j'étudie des articles, hein. Je suis pas en train de faire la publicité du professeur Salzman, là, je suis en train de vous faire la publicité d'un universitaire. Évidemment, j'aime les discours scientifiques et donc j'aime aussi le discours scientifique qu'a apporté la physique et compagnie. Il y a aucun souci là-dessus. Seulement, je l'aime, je l'apprécie, j'y suis attaché, mais je ne dirais pas qu'il est plus vrai que les autres. Je ne dirais pas que lui, il décrit le réel et pas les autres. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est qu'il faut comprendre que le discours scientifique, moi j'y suis attaché personnellement, et c'est un discours qui pour moi a beaucoup d'importance, et effectivement pour mon entourage et aussi, etc. Mais j'y suis pas, comment dire, ouais, je considère pas que c'est, comment dire, que c'est la réalité. Je considère que c'est un discours. Une controverse, un discours actuel qui porte sur la réalité. Et oui, je pense que sur les questions du comment la matière, comment les atomes, comment les molécules, comment la chimie, comment, sur les questions du comment, le discours scientifique de la physique, par exemple, a des choses à nous apporter et est très intéressant, et voilà. Mais voilà, c'est pas l'alpha et l'oméga, et même les physiciens eux-mêmes, je veux dire, Einstein était religieux, il avait une spiritualité. Faut arrêter de cette vision du scientifique comme matérialiste pur et dur, qui croit ni zombies ni quoi que ce soit. C'est faux. Et d'ailleurs, des zombies, il y en a dans la réalité. Il y a des arbres, par exemple, zombies, concrètement, parce que ce sont des arbres qu'on a l'impression qu'ils sont vivants, mais en fait, ils sont parasités par d'autres arbres. Il y a des insectes qui colonisent le cerveau de. Non, des champignons, pardon, qui colonisent le cerveau de mouches pour aller se reproduire ailleurs. Donc il y a des mouches zombies, ça existe. Donc les concepts inventés par la fantaisie, que d'aucuns pourraient dire, ouais, c'est des fariboles, gna gna, bah, ils peuvent être utiles au discours scientifique in fine. Donc il faut pas rejeter le bébé l'eau du bain, il faut rester ouvert. Rester ouvert. Peut-être qu'il y a des ovnis dans le ciel. Peut-être qu'effectivement, il existe des objets non identifiés dans le ciel. Et à mon avis, il en existe. Sinon, il n'y aurait pas le GEPAN, il n'y aurait pas tout ça. Il existe des choses qu'on n'arrive pas à expliquer dans le ciel. Et il faut continuer à les voir. C'est pas parce que c'est un truc de zinzin de regarder le ciel en se disant qu'il y avait peut-être des ovnis dedans qu'il faut arrêter de regarder le ciel. Et tout ça est lié, en fait. Je reprends le chat rapidement. Ah, c'est très très humble comme position. Bah, j'essaye vraiment. Il faut essayer d'avoir. En fait, c'est pas tellement humble. C'est parce que c'est pas humble du tout, en fait. Parce que moi je suis très prétentieux. Je pense que ma position c'est la meilleure. Le mec est pas un paradoxe près. Je suis pas humble, hein. Ça, on peut me dire bien des choses, mais ça, je suis pas tellement humble en fait. Donc, je suis assez convaincu que cette position c'est la meilleure. Mais je suis assez convaincu aussi qu'elle peut être fausse et qu'un jour, peut-être toi, Rosargue, tu viendras et tu me démontreras et tu me diras qu'elle est fausse et enfin, pas qu'elle est fausse, mais que et il y a mieux à penser, que c'est peut-être une façon erronée de voir le réel, etc., etc. Et voilà. C'est pour ça que je suis très, j'adore. La critique, d'une manière générale. Et on va en venir tranquillement à notre troisième volet. Alors, je voudrais juste en finir avec la conclusion sur Pierre Lagrange, c'est que ensuite, donc Pierre Lagrange, dans son article, fait une ouverture sur la politique, c'est-à-dire que, en fait, ce qu'il critique, au fond, c'est l'être au monde de l'occidental, la façon dont l'occidental s'approprie le monde en voyant d'un côté des humains, de l'autre des non-humains, et les non-humains, bah, ils sont à moi, je m'en fous, ils souffrent pas, de toute façon, ce livre, je peux le mâchouiller, je m'en fous, voilà, je peux lui faire du mal, machin, et tout ça, etc. Évidemment, ça n'a pas de sens de dire que je fais du mal à un livre, hein. En tout cas dans le modèle théorique qui est le mien. J'imagine que ça pourrait en avoir. Ça pourrait en avoir. Pour des gens comme Primo Levi, peut-être par exemple, qui disait que brûler un livre, c'est comme brûler un homme, peut-être que ça pourrait en avoir. Mais voilà, enfin, restons ouverts. Voilà. Et la critique fondamentale de Pierre Lagrange de l'être occidental, c'est de dire que si on continue à avoir ce rapport au monde entre division entre pensée magique d'un côté, pensée rationnelle de l'autre, d'un côté le monde social, donc les humains en gros, et de l'autre les objets qu'on peut maltraiter, malmener et compagnie, eh bien on va à la catastrophe. C'est-à-dire que nos sociétés vont finir par épuiser en fait les non-humains, vont les détruire, vont détruire la biodiversité, et en fait ce rapport au monde problématique que les Occidentaux ont avec le monde, il va finir par nous autodétruire. Purement et simplement, nous allons nous autodétruire. Et je sais pas je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est pas fou en fait comme proposition. C'est pas dingue, hein. Donc voilà. Et d'ailleurs, c'est un des retours que vous m'avez fait, beaucoup de retours que vous m'avez fait, bah, c'est finalement ce que dit Pierre Lagrange, bah, c'est pas Voilà, c'est pas foufou quoi. Donc vous vous étonniez que je sois aussi emballé par un article qui pour vous ne vous semblait pas foufou. Mais c'est peut-être juste que vous êtes particulièrement bien informé de ces sujets. Et après tout, en ayant écouté la cellule pendant des heures, sachant que Pierre Lagrange est déjà intervenu, qu'on a fait des articles et des podcasts sur le monde logique, que avec des gens comme Fabien Ilvine, on a aussi traité des problèmes anthropologiques et sociologiques, je pense que c'est pas surprenant que vous soyez bien informé de tous ces sujets. Donc voilà. Donc alors je vois un truc. Ah, on parle de Jeanne Favre-Sada, j'adore. Ah non, mais la science s'intéresse aussi à des sujets comme ça. Jeanne Favre-Sada, par exemple, a étudié la sorcellerie en Mayenne, elle a expérimenté et elle analyse. Alors bonjour Urgell. Alors Ozark, très bien. Hein. Jeanne Favre-Sada, très bonne référence. J'aime beaucoup Jeanne Favre-Sada et son travail évidemment, qui a beaucoup inspiré Pierre Lagrange, Latour et évidemment. Pour l'étude sociologique non symétrique, si j'ose dire, enfin symétrique. Enfin bref, pour l'étude sociologique des non-humains. J'essaye de lire en même temps, c'est compliqué, je me perds un peu. Donc voilà. Voilà, donc je pense que vous avez compris pourquoi ça m'intéressait. J'ai eu quelques questions, je les prends rapidement. Alors, je ne comprends pas les conclusions de votre échange. Donc voilà, par exemple, voilà, donc là j'ai noté quelques questions ici. Il y a des questions, donc j'ai reçu des questions de Darky, j'ai reçu des questions de Boudy, j'ai reçu des questions de Guillaume Vendée, j'ai reçu des petits mails comme ça de questions. Je prends ici quelques questions. Alors je ne comprends pas les conclusions, donc n'hésitez pas à m'envoyer des mails avec des petites questions que je peux reprendre comme ça pendant le live. J'aime bien, surtout quand je suis tout seul, ça me permet comme ça de discuter avec vous. Je ne comprends pas les conclusions de votre échange avec Pierre. Les actions ou propositions d'action qu'il faudrait tirer sur la base des constats de l'article. J'aimerais mieux comprendre le message qui doit être perçu. À ce stade, je ne parviens pas à aller au-delà de on ne prend pas assez au sérieux les êtres non humains, mais concrètement, j'ai l'impression de passer à côté du message. Donc là, voilà. Donc là, typiquement, je pense avoir répondu, je pense t'avoir répondu, Guillaume, sur le fait. Ça, c'est une question de Guillaume Vendée. Sur le fait, donc, sur le message, en fait. Le message, c'est parlons-nous. Mais je sais bien que toi, t'aimes bien discuter. Je sais que tu as tes propres positions, mais le message, c'est ça, c'est parlons-nous. J'ai l'impression que l'article ouvre la porte à la possibilité de considérer que les fantômes existent. Ah, ça, c'est une question très intéressante. Tout comme les soucoupes volantes et les esprits. Évidemment, tu t'en doutes, me connaissant un peu, ça me heurte. J'ai là aussi l'impression de passer à côté du propos. Alors, effectivement, alors ça c'est quelque chose de très intéressant, c'est cette notion d'existence. Qu'est-ce que ça veut dire exister? Alors, il y a une réalité quelque part, encore une fois, il existe certainement quelque chose qu'on perçoit avec nos sensations, quelque chose qui interagit, quelque chose qui résiste à certaines formes d'expérience, à notre langage. Il y a quelque chose qui existe, c'est certain. C'est certain, mais je ne sais pas ce que c'est. Fondamentalement, je ne sais pas ce que c'est. Par contre, quand tu dis, j'ai l'impression que l'article de la parole de considérer que les fantômes existent, la réponse est oui, en un certain sens. C'est-à-dire que si une communauté construit un objet sur la base de la réalité, toujours, sur la base d'une expérience réelle, d'un ressenti, d'une expérience émotionnelle, voilà, eh bien, effectivement, dans le cadre des pensées liées à cette communauté, les fantômes existent. Et donc, les fantômes existent de facto. Aujourd'hui, est-ce que par exemple tu penses que les ordinateurs existent? La réponse est oui. Pourquoi? Parce que tu as un objet, donc tu as une réalité qui est construite sur ce qu'est un ordinateur, une définition de ce que tu appelles un ordinateur, et du coup, cette définition te permet de conclure en l'existence d'ordinateur. Seulement, si j'arrive ici que par exemple, moi, je suis un. Je sais pas, je ne connais pas spécialement les ordinateurs, je ne sais pas ce que c'est. Par contre, je suis spécialiste de toutes les connexions électriques. C'est-à-dire que moi, je perçois parfaitement les connexions électriques. Moi, je vais peut-être pas voir un ordinateur, tu vois. Je vais peut-être voir des interactions électriques entre différents objets. Et j'aurais beaucoup de mal à comprendre ce que tu appelles un ordinateur. Parce que moi, en fait, je suis au niveau des connexions électriques. Donc, moi, dans mon monde, en fait, ce qui existe dans mon monde, dans mon rapport au réel, c'est d'abord et avant tout des connexions électriques. Et par exemple, quand je vois ton cerveau, je me dis pas que c'est un cerveau. Je me dis, tiens, c'est des connexions électriques. C'est marrant. Il y a d'ailleurs un manga qui s'intitule Lane, Serial Experimental Lane, je crois que ça s'appelle le nom de la série complète, qui postule l'idée que en fait la sélection naturelle n'est pas donc n'est pas le comment dire que l'objectif de la sélection naturelle n'est pas de produire des êtres vivants, en réalité, des êtres vivants fonctionnels, mais qu'en réalité, le fruit de l'objectif, entre guillemets, hein, l'objectif de la sélection naturelle, ce serait de produire des connexions électriques. Et donc en cela, l'œuvre parfaite de la sélection naturelle, ce serait Internet. C'est du moins ce que postule la série. Et donc du coup, dans la série, on a des êtres qui vivent à l'intérieur d'Internet. Enfin, je vous fais pas la série, elle est passionnante, elle est vraiment très intéressante. Bien, très intéressante. Je crois qu'elle était avant Matrix, hein, Lane. Je sens que c'est avant Matrix. Je sens que c'est avant. On me dit donc pour un marxiste, les classes sociales existent. Un peu mon neveu. Un peu mon neveu, bien sûr, bien sûr. Mais c'est pas pour un marxiste, c'est pas pour un marxiste. C'est-à-dire que les classes existent pour peu qu'on soit capable de définir dans le réel quelque chose qui ressemble à une classe. Et voilà. Et ces choses que l'on décrit, du coup, à partir du moment où on les a construites, on les a proposées, eh bien, je peux, à partir du moment où le concept est construit, je peux commencer à apercevoir ces choses dans le réel. Alors évidemment, soucoupe volante, esprit et tout ça, bah évidemment, ça paraît pour nous occidentaux qui avons, je veux dire, ça fait à peu près depuis Socrate. Il y a eu Socrate, Jésus-Christ, Descartes. Il y a eu quand même beaucoup de rationalistes qui sont passés derrière et qui constituent notre corpus théorique, qui ont aidé à façonner le réel. Et donc du coup, pour nous, l'idée qu'il puisse y avoir des fantômes et des soucoupes volantes, ça nous paraît des fantômes. On va prendre l'exemple du fantôme, ça nous paraît complètement absurde. Mais forcément, depuis notre point de vue occidental, ça paraît absurde. Mais on se plante peut-être. On se plante peut-être. Peut-être qu'effectivement les esprits existent. C'est juste qu'on ne sait pas les percevoir. C'est juste que on est aveugle à ces choses-là. On ne les voit plus. On a appris à ne plus les voir. Voilà. Alors je sais que ça va être un truc. J'en sais rien. Je ne postule pas l'existence des fantômes ou leur non-existence, j'en sais rien, tu vois. Mais dans certains contextes, on a quand même donc des témoins qui nous rapportent avoir fait des expériences, plusieurs témoins, même des groupes de témoins. Je vous invite à lire le livre de Laplace, de Grégory de Laplace, sur les expériences particulières, donc qui parle justement, qui fait l'anthropologie des gens qui ont eu des expériences liées à des spectres, des revenants, des fantômes, etc. Et donc, on a quand même des gens qui nous parlent de ça. Donc, en tout cas, ils ont perçu quelque chose du réel qui les pousse à construire le fantôme comme objet explicatif de leur réalité. Et donc, évidemment, ça pose question. Après, voilà, du point de vue matérialiste, scientifique, etc., on a des tas d'expériences. Je crois que c'est mon voisin, notamment, qui fait des expériences comme ça, où il démontre à des gens qui croient voir des esprits qui sont pas là, ou je ne sais pas quoi. Mais tout ça est toujours dans une interaction entre deux formes de pensée autour du réel. Et donc, c'est une controverse, c'est une discussion. Moi, je ne sais pas ce qu'est le réel. Donc, je ne sais pas si les fantômes existent, je ne sais pas. Je ne sais pas d'ailleurs ce qui existe et ce qui n'existe pas. Tout ce que je sais, c'est ce que je construis et ce que je crois être réel en l'état actuel de mes connaissances et du discours scientifique. Ou du discours scientifique ou du discours sur la réalité, tout simplement. Il n'y a pas que le discours appelé scientifique. Il y a tous les discours sur la réalité. Je reprends rapidement. Mais les sciences traditionnelles ne réfutent pas l'existence de fantômes a priori. Elles considèrent juste que ça est. Que si ça existe, elles ne sont pas capables de le prouver. Voilà, ça c'est intéressant comme commentaire. Je pense qu'effectivement, c'est exactement. Ça c'est vraiment un point de vue rigoureusement scientifique. C'est bien. Vraiment, ça, c'est vrai, c'est ça. C'est ça. Après, voilà, évidemment, le scientifique, dans son rapport au monde, ne va pas postuler l'existence des fantômes, parce que ça ne l'intéresse pas. C'est un objet qui ne l'intéresse pas, qui ne lui permet pas de donner des explications, qui ne lui permet pas de donner des explications dont il a besoin pour son discours et pour son travail. Donc, éventuellement, enfin, le scientifique, caricatural, j'entends, celui de la science dure, le physicien, par exemple, le physicien. Pour faire simple, physicien matérialiste qui étudie les interactions, la mécafluide, la mécaflu par exemple, la mécanique des fluides. Bon, pas sûr qu'il ait besoin des fantômes, sauf dans Ghostbusters, bien sûr, parce que vous savez, les fantômes sont des fluides dans Ghostbusters, mais c'est une autre histoire. Quoique c'est intéressant aussi ça. Petite parenthèse, j'ouvre une parenthèse ici pour nos fictions. Voyez aussi ce que ça peut apporter au jeu de rôle, toutes ces questions quand même. C'est-à-dire que La façon dont on construit le réel, c'est un peu la manière dont on construit ce qui existe autour d'une table de jeu de rôle. On fait monde à part et on dit, bon, pour ce soir, ce qui existera, ce sont des sabres laser, des Jedi, des Sith, et on fera semblant de s'affronter, etc. Donc il y a un côté vraiment. Tout est jeu de rôle, en fait, pour Pierre Lagrange, j'ai envie de dire. Tout est Maelstrom. Donc voilà. Marc me dit, même si ça n'existe pas. Pas pour un occidental, eux organisent leur vie autour des morts et des esprits, une grande partie de leur rite tourne autour de ça. Est-ce qu'accorder, pardon, de l'importance n'est pas simplement faire exister? Ça, c'est très intéressant. Ce que nous dit Marc là, c'est que à partir du moment où on a des êtres, on est en interaction avec des êtres humains qui ont besoin en fait de l'existence de ces êtres pour poser leur propre existence, c'est-à-dire que leur être au monde, leur manière, leur forme de vie, dirait Wittgenstein, suppose en fait l'existence de ces objets. Si on ne fait pas l'effort de comprendre que pour eux, c'est-à-dire que ils existent pour eux, mais pas pour nous. Enfin, je sais pas comment dire. Si on ne fait pas l'effort, en fait, de se mettre dans leur pensée, dans leur monde à eux, de la même manière, si eux ne font pas l'effort de penser dans notre monde à nous. Attention, je dis pas encore une fois que notre monde est meilleur. Je dis qu'on a ici un rapport entre deux mondes. Et justement, eh bien, on va passer à côté des comportements des individus. Et je sais qui est Marc, et je sais que donc ce monsieur a fait un peu de psychologie, et au cours de sa carrière, il a eu affaire justement à faire preuve de psychologie sur des individus qui n'étaient pas de notre culture. Et donc, évidemment, pour des gens comme Marc, par exemple, qui font de la psychologie chez des personnes qui n'ont pas forcément notre rapport au monde, et bien c'est très important de ne pas postuler de base que ce dont il parle n'existe pas, parce que sinon on peut passer à côté d'informations importantes dans l'histoire de la personne qu'on interroge. Donc tout ça est très intéressant. Donc évidemment, en tant qu'anthropologue et en tant qu'être humain, on doit toujours faire l'effort de donner du crédit. Moi j'appelle ça le principe de charité. On doit toujours faire l'effort de donner, d'accorder le bénéfice, de l'importance, le crédit à son interlocuteur pour le comprendre et pour rentrer progressivement en interaction avec lui. Et quand on sera en interaction avec lui, peut-être à ce moment-là, on pourra lui aussi, peut-être, à ce moment-là, pourra entrer en interaction avec nous et devenir le prochain Thomas Pesquet. C'est pas plus esthétique que scientifique. Là, je pense que tu fais référence, effectivement, il y a une vision de la science comme pourvoyeuse de vérité contre les contre-vérités pseudo-scientifiques. Donc une espèce de zététique un peu caricaturée, on va dire, parce que c'est plus difficile que ça, la zététique. Mais voilà, y a une espèce de vision comme ça, effectivement, un peu caricaturale des sciences qui serait défendue par une certaine forme de zététique un peu caricaturale, elle aussi, assez c'est compliqué. Donc voilà, qui se voit en fait une espèce de science qui se voit comme pourfendeuse des croyances, entendues croyances au sens péjoratif, c'est-à-dire croyances délirantes. Oh, mais oh, les imbéciles, ils pensent que la Terre est plate, à quelle bande de blaireaux! Allons leur casser la gueule et leur montrer que, à l'aide de nos grosses théories scientifiques, que la Terre n'est pas plate, mais qu'elle est ronde. Non, mais ça, c'est complètement stupide comme démarche. Hein. Je vous l'annonce tout de suite, vous ne convaincrez pas un platiste avec ce genre d'argument. Il trouvera toujours, étant donné qu'il est dans une pensée du complot, il trouvera toujours qu'en fait, vous êtes. Son scepticisme en fait l'empêche de pouvoir comprendre vos arguments en fait. Donc vous ne réussirez pas à le comprendre, à le convaincre comme ça. Ma proposition à moi, c'est plutôt de le prendre au sérieux, d'essayer de comprendre en fait la mécanique de son monde, comment son monde fonctionne, d'entrer en interaction avec lui. En gros, c'est long, ça veut dire devenir son ami. Ah, c'est compliqué ça. Ah ouais, c'est long. Ah, c'est plus long, c'est sûr que c'est plus long que de publier une vidéo à la con où on montre qu'il est complètement fou et complètement con. C'est sûr que c'est plus difficile, mais c'est ce qu'il faut faire. Sinon, de toute façon, le platiste il changera pas d'avis. J'ai une formation de physicien, si ça peut donner un indice. Ah oui, important ça, important, ça dit ça important. Jurgle me dit, on est plus sur un discours logique avec la charge de preuve que sur un discours scientifique, j'imagine. La charge de la preuve, c'est plutôt un discours logique qu'un discours scientifique. Je pense pas du tout. Le discours logique porte plutôt sur la structure des énoncés, mais il ne porte pas sur la. Enfin bon, je sais pas. Je passe à côté de certaines choses peut-être. Vous me dites, hein, si je réponds à côté, vous me précisez tout ça. Un jour, je vous raconterai une histoire de gris-gris d'invincibilité. Ah, ben, je la connais ton histoire, Marc. Génial, génial, une histoire géniale. C'est magnifique, c'est magique. C'est magique. Et moi, j'adore. Enfin, je suis désolé, mais moi, je fais encore partie de ces gens qui se plaisent à se mettre un soir au coin du feu et à faire raconter à ses amis des histoires qu'ils ont vécues, des histoires étranges, des histoires paranormales. J'adore écouter les gens parler de choses qui pourraient paraître absurdes pour un matérialiste. Voilà, j'adore. Je prends mon pied à ça. Je suis en train en ce moment de lire d'ailleurs le livre de Le Braz, d'Anatole Le Braz sur les Bretons et leur fascination pour les contes autour de la mort et tout, et tout ce qu'il dit des Bretons, ça correspond parfaitement à ce que je suis, ça me fait un peu peur. J'aurai l'occasion, j'aurai lu. Oui, je lis les messages en retard. Je suis désolé, Jurgel, je suis vraiment désolé. On est décalé, je réagissais à des phrases que tu as dites précédemment. Ok, désolé, hein, si je réponds. Encore une fois, je sais bien, je sais bien que c'est compliqué. Tu veux dire que la chute des ventes depuis 2021, ça vient du fait que Romaric a perdu son gris-gris fétiche? Génial! Alors, si le sous-fétiche, c'est la pièce qui m'a été donné par Broussailles, la pièce. Je l'ai toujours. Hein. J'ai toujours une pièce qui m'avait été donnée lors d'une partie des Dernières Lueurs, qui nous avait été présentée par Broussailles. Une pièce pour le passeur, en fait, que j'ai gardée, et elle est là. Hein. Alors, je vais pas je vais pas fouiller, mais elle est là. Elle est ici. Je l'ai gardée. Donc, j'ai toujours mon gris-gris. Oh, n'importe quoi. Tiens, le Braz, on a fait une séance dessus en jouant un scénario de Néphilim qui se passe en Bretagne. Tu m'étonnes, Rosa. Incontournable, le Braz, pour tous ces mythes et légendes. Incontournable pour la campagne du Néphilim qui se passe évidemment en Bretagne, puisqu'on y retrouve notamment la légende de la cité 10 et tout qui est au cœur de la campagne de Néphilim. Donc voilà. Bon, j'espère avoir répondu à quelques-unes de vos questions. J'ai encore une question. J'ai l'impression enfin que beaucoup des réflexions détaillées s'appuient sur une opposition, voire une dichotomie de la société entre des tenants absolutistes de la science et des tenants de thèses paranormales. C'est exactement vrai. Hein. Ça, c'est parfait. Il me semble que cette vision est au moins limitée. C'est clair. Je suis totalement d'accord avec Guillaume ici, puisque encore une fois, ce sont des questions de Guillaume. Je suis parfaitement d'accord avec Guillaume que l'opposition, c'est ce que nous décrit Guillaume là, c'est le grand partage en fait, entre d'un côté la pensée rationnelle, de l'autre la pensée magique, et que cette dichotomie de la société c'est une vision de la société qui est très très limitée. Néanmoins, qui est, même si elle est très très limitée, elle est quand même extrêmement partagée. C'est malheureusement beaucoup de gens ont cette vision du monde dualiste, on va dire, entre d'un côté la matière, pour faire simple, de l'autre les esprits, par exemple. D'un côté, entre les gens qui soutiennent des thèses complotistes, pseudo-scientifiques, et de l'autre, la science qui dirait, elle, qui porterait, elle, un discours de vérité. Je suis désolé, mais ça reste malheureusement encore la conception populaire des sciences. Et là, tous les articles, tous les, enfin, en fait, beaucoup de façons dont on parle des sciences d'une manière générale dans les discussions ou même dans la presse le montre, le démontre. Voilà. On a encore une vision très limitée du discours scientifique aujourd'hui. J'espère avoir répondu au maximum aux questions que vous vous posiez sur l'article de Pierre Lagrange. Donc est-ce qu'il est. On me demande s'il est possible d'avoir la date du prochain live. Les lives ont toujours, à partir de maintenant, les lives auront toujours lieu le premier mardi du mois à 21h. Donc voilà, ça permet à Jurgle d'avoir une date et un rendez-vous précis. Après, Daniel Schneerman t'a rappelé qu'il existe les faits. Donald Trump a perdu les élections de 2020. C'est un fait. Je troll un peu. Oui, alors les faits sont des constructions. Ça, c'est très compliqué à avoir. Les faits, malgré tout, sont des constructions. Parce que, par exemple, l'objet Donald Trump qui entre dans la proposition Donald Trump a perdu les élections, l'objet Donald Trump est une construction. C'est une construction médiatique, une construction intellectuelle, une construction. Ce qu'on pourrait le décrire comme un tas de merde aussi. Je pense que ça lui correspondra assez bien, en réalité. Une tas de merde avec une mèche blonde. Ça, bon, bref. Et de la même manière, les élections de 2020, ce que tu appelles les élections de 2020, ce sont aussi un construit démocratique, un construit social, etc. Alors, oui, il existe un fait journalistique, là, en l'occurrence. Parce que ce dont parlait Daniel Schneiderman ici, ce sont bien sûr des faits journalistique. Il ne parlait pas des faits métaphysiques, il ne parlait pas des faits scientifiques. Donald Trump a perdu les élections de 2020, je ne suis pas sûr que ça s'insère énormément dans un discours sur la physique quantique, par exemple. Je ne suis pas sûr que ce soit un fait en physique quantique. Enfin bon, voilà. Donc attention, hein, là, les faits sont construits. C'est pour ça d'ailleurs que je disais à Daniel que ce dont parlent les... En fait, pour être tout à fait rigoureux, ce dont parlent les journalistes, ce ne sont pas des faits en réalité. Ils décrivent des événements. C'est différent parce que Ah oui, ah bah tiens, Rosard me dit c'est marrant parce qu'en physique, on parle plutôt d'événements aussi. En physique causaliste. Oui, effectivement, et comme la physique est, de toute façon. Ouais, ok. Ok, oui, tout à fait, je suis d'accord. Je suis parfaitement d'accord. Ouais, ok. Les événements aussi, ouais. Ok, très bien. Mais je pense pas que le concept d'événement journalistique et le concept d'événement physique soient tout à fait comparables. En fait, on parle des mêmes. Voilà, là aussi, tu vois, notre discours sur la réalité, Rosargue, il est un petit peu. Il est un petit peu. Comment dire, on a un même mot pour décrire des phénomènes qui sont très différents. Enfin bon, bref, je vais pas rentrer là-dedans, mais voilà. En tout cas, voilà, je faisais la réflexion à Daniel que, en fait, en réalité, on devrait plutôt parler d'événements. Et j'avais fait un petit trade sur X Twitter pour justement décrire la différence et la distinction entre les faits et les événements. Et un élément important pour distinguer un événement d'un fait, c'est qu'un fait n'a pas de cause, alors qu'un événement a des causes. Et là, par exemple, Donald Trump a perdu les élections de 2020, c'est évidemment un événement parce qu'on pourrait décrire des causes à cela. Voilà. C'est ça, il y a une polysémie sur laquelle il faut travailler quand on veut bosser avec des gens de plein de disciplines, effectivement. Quels sont les points communs entre Schneiderman et Lagrange? Eh bien, à mon avis, alors là, encore une fois, ils ne tracent pas, ce ne sont pas eux-mêmes qui tracent le trait d'union entre eux, évidemment. Mais en réalité, moi, je pense que les deux sont à la recherche d'un discours critique sur alors, plein de choses, en fait. D'abord, ils sont tous les deux à la recherche d'un discours critique sur la manière dont les Occidentaux se présentent face au monde. Je vais le prouver dans la troisième partie de ce stream. C'est promis. Oh putain, j'ai explosé mon temps. Je vais le montrer, c'est promis dans la troisième partie de ce stream. Et je pense qu'ils ont ce point commun, d'une part. D'autre part, je pense que en fait, l'entreprise d'arrêt sur image, qui est donc le site des journalistes d'arrêt sur image, qui parle du journalisme, tient aussi. Et aurait beaucoup à apprendre aussi de l'anthropologie. Parce que, en fait, les journalistes sont un milieu, sont un terrain anthropologique comme les autres. Et donc là aussi, je vois des liens entre Pierre Lagrange et Daniel Schneiderman, dans la mesure où les deux sont anthropologues. Alors, Schneiderman n'a pas conscience d'être anthropologue, il ne se présente pas du tout comme ça. Je pense que pour lui, d'après ce que j'ai compris de sa réponse, de la réponse qu'il m'a donnée, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai interprété moi, il pense que anthropologue, c'est trop. Il a une vision, je pense, de l'anthropologie qui est tellement élevée. Il dit, moi non, je suis juste un journaliste. Voyez, il y a un côté quelque chose d'humble là-dedans. Alors qu'en réalité, je pense qu'il tient, avec les journalistes d'arrêt sur image, tiennent aussi pas mal de l'anthropologue. Et à la fois du journaliste. Enfin, à la fois journaliste et anthropologue, je pense. Donc voilà déjà quelques liens. Et quel dernier lien que je pourrais voir? Ah bah évidemment. Oui, bien sûr, évidemment. Et on va en parler. Mais tous deux ont l'importance donnée à l'aveuglement. Alors ça c'est compliqué, il faudrait que je développe. Je vais en parler après, ça te dérange pas, Jurgel, je vais peut-être voir ça plus loin, mais il y a un côté, en fait, les choses sont là sous nos yeux et on ne les voit pas. Wittgenstein avait cette phrase, il dit, il faut d'abord apprendre à voir ce qu'il y a sous nos yeux. Apprendre à voir ce qu'il y a sous nos yeux. C'était une maxime de Ludwig Wittgenstein. Vous savez que moi, donc c'est mon philosophe préféré, hein, Ludwig Wittgenstein. Et donc du coup, c'est celui sur lequel je travaille dans Sens notamment. Et donc voilà. Donc toujours est-il que apprendre à voir ce qu'il y a sous nos yeux, ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait qu'il y a des choses qui sont là. Qui sont des évidences et en fait qu'on ne voit plus. C'est ce que Daniel Schneiderman appelle parfois l'éléphant dans le couloir. C'est-à-dire qu'il est là ou l'éléphant dans la pièce. C'est-à-dire qu'il y a un éléphant dans la pièce, personne ne le voit. On passe autour, on tourne autour, mais personne ne le voit. Et donc les deux ont cette espèce d'attitude tous les deux. Ils cherchent à produire un discours et une vision du monde qui leur permettent de ne pas rater les éléphants dans le couloir. De voir en fait, de se désaveugler en un sens, d'apprendre à voir ce qu'il y a sous leurs yeux. Et pour ça, ils ont des techniques qui sont différentes. Donc Pierre Lagrange, lui, c'est... c'est à travers la sociologie de Bruno Latour, en accordant en fait du sérieux aux objets tels qu'ils sont vus, à la réalité telle qu'elle est perçue par les individus. Et Daniel Schneiderman, par exemple, c'est en étudiant les vieux articles de presse et les vieux articles de journaux, en essayant de voir finalement quels étaient les éléments en fait qui n'ont pas sauté aux yeux de des gens qui vivaient à cette époque-là, c'est-à-dire qu'est-ce que les autres dans l'histoire ont raté, qu'est-ce que les autres journalistes qui faisaient le même métier que moi, qui avaient la même rigueur que moi, ont raté, pour m'apprendre en fait humblement, pour m'apprendre à moi-même ne pas rater les événements. C'est-à-dire une étude de ce qui a raté par le passé, enfin une étude critique des choses qu'on a ratées dans le passé pour apprendre à voir ce qu'il y a sous nos yeux. Donc les deux en fait ont une démarche assez similaire, d'espèce d'exposition de la réalité comme ça, crue, nue, essayer de mieux la comprendre, de mieux la saisir. Et puis les deux ont un discours critique, enfin il y a plein de points communs, il y aurait plein de points communs. Mais voilà, après je pense que l'un et l'autre n'ont pas conscience d'être autant liés. Et tant mieux d'ailleurs, enfin c'est bien que chacun soit dans son couloir et fasse du mieux qu'il puisse. Moi je m'en fous, moi je suis les deux, donc après voilà, je pense que... Mais je sais que Daniel Schneiderman a invité Pierre Lagrange, hein, sur le plateau d'Arrêt sur Image. Je sais pas s'il a été peut-être invité une ou deux fois, je sais plus, mais... Donc ils se sont rencontrés, mais ils se sont pas rencontrés. Parce que sur le plateau d'Arrêt sur Image, Daniel a complètement raté son invité, en fait, il a complètement raté Pierre Lagrange. Parce que il l'avait invité en tant que sociologue. En fait, Daniel était victime de ce grand partage entre d'un côté la pensée rationnelle et de l'autre la pensée magique. Grand partage que par ailleurs il va dénoncer plus tard. Mais bon, bref. Et donc il était un peu victime de ça dans l'interview qu'il a faite de Pierre Lagrange. Et du coup, en fait, il interrogeait Pierre Lagrange comme un sociologue qui vise à expliquer l'irrationalité des complotistes, en gros. C'était sur un article sur la théorie, les pensées du complot. Et en fait, il a raté en fait la dimension critique du travail de Pierre Lagrange, un rendez-vous raté, mais bon, c'est pas grave, voilà, on se chargera de faire la rencontre à travers ces émissions, et puis ce sera à vous de les faire se rencontrer à travers vos propres pérégrinations intellectuelles. Alors, quels sont les points communs entre Pierre Lagrange et Daniel Schneiderman? J'ai répondu, je pense que c'est toi qui traces ce trait d'union et c'est ce qui m'intéresse. Oui, tout à fait, pour Schneiderman, j'ai l'impression aussi qu'il est anthropologue. Pas de souci, j'allais rajouter Wittgenstein justement et peut-être Marc Bloch, mais je sais pas si ça ferait sens pour toi. Alors si, absolument, alors là, bien sûr. Marc Bloch... Oh là là, pourquoi ça pète le son là? Je suis désolé, hein, il y a peut-être des problèmes de son, parce que je vois que parfois ça s'affiche. Bref, Marc Bloch, évidemment, est un penseur très important, à mon avis, pour les deux. Parce que justement, il fait l'anthropologie de son propre temps, ça c'est quelque chose qui est très intéressant. Il est anthropologue, en fait, sur son propre terrain, qui est celui de la guerre, celui des généraux de la Seconde Guerre mondiale, et ses conclusions, à travers la vision sociale qu'il apporte, est à la croisée des chemins entre l'histoire, la sociologie et le journalisme. Donc évidemment, dans Marc Bloch, on trouve une fusion, effectivement, des pensées. L'interview a pas mal tourné autour de Marc Bloch, justement, avec Daniel Schneiderman, je pense. Oui, effectivement. Oui, c'est pour ça que je demandais, j'ai l'impression qu'il y a un fil entre ces personnes. Effectivement, il y en a un, mais je vous invite vraiment à lire L'étrange défaite. Berlin 33. Éventuellement celui-là 5 têtes coupées pour Daniel Schneiderman et pour Pierre Lagrange, je vous ai dit, je l'ai pas ici sur moi, mais c'est Ce qu'ils ne veulent pas que vous sachiez, qui dont le titre est horrible. On en a parlé pendant le stream, mais c'est un très très bon livre pour comprendre les points de Pierre Lagrange, le grand partage, etc. Bien que l'article que je vous ai présenté et le stream précédent vous aura présenté aussi un petit peu de la pensée de Pierre Lagrange. Voilà. Eh ben dis donc, c'était dense comme discussion. Mais vous avez vu comment on fait tranquillement la transition vers 5 têtes coupées de Daniel Schneiderman. Vous êtes des super viewers, vraiment, et viewers. Je vous remercie beaucoup de vos questions, la manière dont vous rebondissez, c'est incroyable. Vous êtes vraiment... vous êtes parfait, quoi. J'ai envie de dire, vous êtes parfait. Vous avez vu, vous arrivez gentiment à la troisième partie de cette émission en partant de Pierre Lagrange. C'est super, quoi. Vraiment génial. Je bois un coup et je suis à vous.
Voilà, c'était l'audio du live. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. S'il vous a plu, vous pouvez partager cette session sur YouTube. Nous rejoindre aussi tous les premiers mardis du mois en vous abonnant à ma chaîne ou à la cellule. Tenez-vous aussi informé des lives en me suivant sur les réseaux sociaux, sur Mastodon ou sur X par exemple, ou bien tout simplement en suivant le forum romaricbriand.fr. À très bientôt.